Coucou le changement climatique. Le défi que représente la lutte contre le changement climatique n'est pas le sujet de ce livre audio. Je vais donc me contenter de récapituler rapidement les enjeux. Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre, GES, principalement de CO2, issues des activités humaines, on parle d'émissions anthropiques, provoquent un réchauffement de la température moyenne mesurée à la surface de la Terre. Un réchauffement ou un refroidissement de la température moyenne à l'échelle du globe provoque des changements drastiques. Par exemple, une planète Terre dont la température moyenne est plus basse de 5 degrés seulement est une planète en pleine période glaciaire, par opposition à la période interglaciaire en cours. Lors de la dernière période glaciaire, il y a plus de 10 000 ans, le niveau des océans était 120 mètres plus bas et la moitié de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et l'ensemble du Canada étaient recouverts de glaciers. Pas un truc anodin, donc. Des changements climatiques naturels, indépendants des activités humaines, ont déjà eu lieu à plusieurs reprises dans le passé. Si certains ont été relativement lents, plusieurs milliers voire centaines de milliers d'années, d'autres ont été beaucoup plus soudains. Fin du Permien, Trias ou encore milieu du Cambrien. Or, d'après ce que les chercheurs nous en disent, les espèces animales et végétales d'alors, incapables de s'adapter à une transformation aussi rapide du climat, se sont tout simplement éteintes en masse. On parle quand même des trois quarts des espèces, là. En d'autres termes, réchauffement climatique rapide rime avec extinction de masse sur le plancher des vaches et dans les océans. La faune et la flore aquatique ne s'en sortent pas mieux, notamment à cause du CO2 qui se dilue dans les océans et qui provoque son acidification. La question est donc, à quel point notre civilisation dépend-elle des écosystèmes naturels? Parviendrons-nous à identifier et à maintenir en vie les espèces qui nous intéressent? À quel coût? Pourrons-nous nourrir une humanité à 10 milliards d'individus sur une planète où la superficie des terres fertiles, parce que le climat tempéré se déplace vers les pôles, se réduit? Et oui, non seulement la Terre est une sphère, mais en plus, il faut que les zones de climat tempéré se retrouvent au-dessus des terres émergées, sinon c'est pas très utile. Si le réchauffement est trop important, de l'ordre de 4 degrés, les zones équatoriales deviendront inhabitables à certaines périodes de l'année. Par inhabitable, j'entends que la saturation de l'air en humidité combinée aux fortes températures empêchera un corps humain, même à l'ombre, de se refroidir suffisamment, provoquant ainsi la mort. On parle bien de mourir de chaud. Autre joyeuseté, à plus 4 degrés, on pense que le désert du Sahara sera aux portes de Paris. Que faut-il faire pour empêcher ce scénario catastrophe? Se lancer dans une réduction drastique de nos émissions de GES pour atteindre moins 70% d'ici 2050 et moins 100% d'ici 2100. Autrement dit, il faut se mettre à brûler beaucoup moins de pétrole, de charbon et de gaz afin de se placer sur une trajectoire où ces sources d'énergie sont inutilisées en 2100. Sachant que ces trois énergies représentent 85% du carburant de nos machines et que le PIB ne peut pas se maintenir sans que ces dernières ne fonctionnent, le défi est de taille. Mais heureusement, le monde est au courant du problème et les dirigeants s'activent. Les émissions de CO2 sont-elles en train de diminuer? Pas vraiment. Depuis les années 2000, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 50%. Ne vous laissez pas avoir par l'argument fallacieux qui consiste à dire que les émissions ont diminué en Union européenne, moins 15%, ou aux États-Unis, moins 12%. Ce tour de passe-passe est simplement dû au fait que ces pays ont délocalisé leurs activités industrielles émettrices de CO2 dans les pays d'Asie. Or, cette production industrielle polluante n'a qu'un seul objectif, nourrir la consommation de l'Europe et des États-Unis. Autrement dit, nous avons délocalisé notre empreinte carbone en Asie, mais nous ne l'avons absolument pas réduite. Pourquoi ne se passe-t-il à rien? Parce qu'il n'est absolument pas certain qu'un monde sans émissions de CO2 puisse garantir à chacun l'équivalent de 110 esclaves énergétiques. chiffre qui devrait passer à 240 si on voulait faire grimper l'ensemble des habitants de la planète au niveau de consommation d'un Français moyen. Pourquoi ? Parce que le défi technique est contraint par les lois de la physique. Énergie fossile versus énergie renouvelable, le battle. Le pétrole, le gaz et le charbon, au-delà du fait que leur combustion relâche du CO2 dans l'atmosphère, existent en quantité limitée sur Terre. En effet, il existe une quantité finie de ces ressources fossiles sur la planète. Pour résumer grossièrement, le pétrole et le gaz ne sont rien de plus que l'énergie emmagasinée pour leur survie, chaleur corporelle, déplacement, fonctionnement des cellules, par de très anciennes bactéries et algues qui se sont fossilisées après leur mort il y a entre 500 et 60 millions d'années. Le charbon, quant à lui, s'est formé suite à la fossilisation des tout premiers arbres il y a entre 360 et 295 millions d'années, alors que les champignons et bactéries n'avaient pas encore évolué pour complètement décomposer leurs cadavres. Ainsi, via le pétrole, le charbon et le gaz, nous utilisons les dépouilles fossilisées d'une ancienne faune et flore pour faire avancer nos voitures et charger nos téléphones. Le point important est que ces sources d'énergie fossile ne sont pas renouvelables. Le processus chimique de fossilisation des cadavres qui a permis la création du gaz, du pétrole et du charbon prend des millions d'années. Une énergie est dite renouvelable si son prélèvement dans l'environnement n'empêche pas les générations futures d'y avoir accès. Par exemple, parce qu'il y aura toujours du vent et du soleil, prélever cette énergie aujourd'hui n'empêche aucunement les générations futures d'en faire de même. Sauf à se projeter dans 5 milliards d'années, quand notre étoile sera à court d'hydrogène. Ça nous laisse un peu de temps. Mais toutes les énergies renouvelables ne sont pas aussi inconditionnelles que le vent et le soleil. Ainsi, d'autres formes d'énergie renouvelable correspondent à celles que l'on peut reproduire à une échelle de temps suffisamment courte pour que l'on puisse les considérer comme inépuisables. Si les champs, les forêts, les océans et les élevages sont bien gérés, il y aura toujours du blé à récolter, du bois à couper, des poissons à pêcher et des animaux à mettre au travail. Le problème est donc simple. Il nous faut nous débarrasser de notre mode de production actuel d'énergie basé sur les ressources fossiles, non renouvelables à l'échelle de temps qui nous intéresse, pour transiter vers des ressources renouvelables. Le grand remplacement. Inutile de rentrer dans la technique, que je ne maîtrise d'ailleurs pas, pour comprendre que la transition énergétique va nécessiter un sacré boulot. Il va falloir remplacer le milliard d'automobiles, les 50 000 navires marchands, les 39 000 avions de ligne et les 3,5 millions de poids lourds dans le monde par des véhicules électriques, voire à hydrogène. Encore faut-il trouver le moyen de produire cet hydrogène de manière renouvelable. Fabriquer des batteries pour tous ces véhicules, ainsi qu'une quantité faramineuse d'éoliennes et autres panneaux solaires. Car non seulement il faut fermer les centrales à charbon, à gaz et à fioul existantes qui produisent la majeure partie de notre électricité, 66%, soit 15 000 TWh par an ou 79 milliards de cyclistes en pleine forme, mais en plus, il faut que l'électricité se substitue aux autres usages des énergies fossiles, donc les carburants des véhicules, plus tout ce qui nous sert à chauffer nos bâtiments et à alimenter les nombreux fours et chaudières industrielles ou domestiques. Tout cela représente une énergie additionnelle de 119 500 TWh par an à faire produire par des renouvelables. 654 milliards en équivalent cycliste, tout de même. Et bien sûr, fabriquer toutes les machines, usines, grues, camions, qui vont servir à construire celles que je viens d'évoquer et celles qui vont servir à construire les machines qui produiront les machines qui produiront les machines. Vous avez saisi le concept. Le nucléaire, une solution ? Le nucléaire n'est ni fossile ni renouvelable, mais son stock est potentiellement tellement important qu'il pourrait quand même faire partie de la solution. Faisons le point. Le nucléaire, une énergie à part. Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire est basé sur la fission d'un métal bien précis, l'uranium, plus particulièrement l'un de ses isotopes, l'uranium-235, qui est présent en quantité limitée sur Terre. L'énergie libérée lors de l'éclatement, la fission, des noyaux d'uranium permet de libérer de la chaleur qui fait bouillir de l'eau, ce qui produit de la vapeur qui fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. Et oui, tout comme n'importe quelle autre centrale électrique thermique, les centrales nucléaires sont avant tout d'énormes machines à vapeur. L'uranium étant un métal qui, comme tous les autres métaux, est créé au cœur des supernovas, celui-ci n'est ni fossile, pas issu d'un processus de fossilisation de matière organique, ni renouvelable. La quantité d'uranium sur Terre ne peut que diminuer. À quand le pic d'extraction d'uranium ? L'uranium-235 représente moins de 1% de l'uranium disponible sur Terre. En effet, les 99% restants sont de l'uranium-238, que les centrales actuelles ne peuvent pas utiliser. D'après les estimations, on parle de réserves prouvées qui dépendent du prix de la ressource, il y a environ 7,6 millions de tonnes d'uranium-235 récupérables sur Terre pour une industrie qui, alors qu'elle ne produit que 10% de l'électricité mondiale, en consomme 70 000 tonnes par an. Cela signifie très concrètement qu'au rythme actuel, les centrales nucléaires n'auront plus de carburant d'ici environ 100 ans. S'il fallait remplacer la production d'électricité au charbon et au gaz par des centrales nucléaires, ce qui correspond à une multiplication par 6 de la puissance installée, les réserves ne tiendraient qu'une dizaine d'années. Cela dit, il existe certains réacteurs nucléaires qui savent tirer profit de la fission de l'uranium-238 et d'autres, très différents dans leur conception, qui savent exploiter un autre métal présent un peu partout sur Terre, le thorium-232. Ces prototypes de réacteurs dits « surgénérateurs » existent déjà depuis bien longtemps. La France en a même construit et utilisé deux dans les années 70, Phénix et Superphénix. Ce type de réacteur, grâce aux métaux plus abondants qu'il utilise, multiplie l'horizon de temps avant un épuisement du carburant par 500, ce qui laisse de quoi voir venir. Mais la peur des accidents et la question des déchets, deux sujets malheureusement très mal compris, polarisent l'opinion publique. Ainsi, les décisions politiques, sauf en Chine et en Russie, ne vont pas dans le sens du développement de ce type de réacteur. Le nucléaire réchauffe-t-il le climat ? Non. La fission à base d'uranium ou de thorium ne génère aucun gaz à effet de serre. D'ailleurs, grâce à sa production électrique au nucléaire, la France, qui pourtant utilise les mêmes énergies fossiles que tout le monde pour tout le reste, est parmi les meilleurs élèves des pays riches en termes d'émissions de CO2. Les Français émettent en moyenne, si on tient compte de leur consommation et pas uniquement de leur production, 7 tonnes de CO2 par personne et par an. C'est moins bien que le Portugal, 5,3 tonnes, la Grèce, 5,6 tonnes, ou encore l'Espagne, 6,2 tonnes, merci la crise économique, mais aussi bien que la Suède et largement mieux que l'Allemagne, 10,8 tonnes, le Japon, 11 tonnes, les États-Unis, 17,7 tonnes, et tous les autres pays riches. Attention, les chiffres varient plus ou moins en fonction des sources. Cela dit, l'ordre de grandeur de la différence entre les pays reste similaire. Cela est essentiellement dû au fait que l'énergie nucléaire est, entre 20 000 et 100 000 selon les sources, donc je coupe la poire en deux, 60 000 fois plus concentrée que l'énergie chimique du pétrole. Pour faire simple, 1 g d'uranium contient autant d'énergie que 60 kg de pétrole. La fusion nucléaire est-elle la réponse ? Difficile à dire. Faire fusionner des noyaux d'hydrogène, je simplifie énormément mais en gros on pourrait, même si ce n'est pas le cas actuellement, les extraire de l'eau de mer, à la manière du soleil, mais en beaucoup plus efficace et concentré, est un rêve dont la réalisation est sans cesse repoussée. À l'heure actuelle, si plusieurs méthodes permettent de faire fusionner des atomes dans des machines laboratoires, la réaction est tellement instable qu'elle ne peut être maintenue que quelques instants, si bien qu'elle génère moins d'énergie qu'il en faut pour la déclencher. Pas pratique pour fournir de l'énergie, donc. Au passage, pas de risque d'explosion avec la fusion nucléaire. L'instabilité de la réaction provoque toujours son arrêt et rien d'autre. Autre avantage de la fusion, plus besoin de s'inquiéter des déchets radioactifs. Si la fission peut nous offrir des centaines d'années d'énergie et la fusion des milliers, la solution du nucléaire est pourtant complexe et peu populaire. Plutôt que de passer trop de temps sur ce sujet, j'aimerais creuser davantage la solution que les médias nous vendent à longueur de journée, les énergies renouvelables. Un défi technique monstrueux. Rien ne paraît impossible aux humains, surtout avec les progrès techniques de ces dernières années. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, le problème se corse. Ne pourrait-on pas paver le désert du Sahara de panneaux solaires? Si, mais il faudrait transporter l'électricité dans des câbles qui, parce qu'ils chauffent quand l'électricité les traverse, font diminuer la puissance électrique du signal à son arrivée. Autrement dit, l'énergie produite sur place est importante, mais elle est beaucoup plus faible quand elle arrive à destination. Plus les câbles sont longs, plus la déperdition est importante. Alors, ne pourrait-on pas inventer de nouveaux matériaux pour transporter l'électricité plus efficacement? Bien sûr, et bonne nouvelle, cela existe déjà. Il s'agit des supraconducteurs. En revanche, il faut les refroidir à des températures proches du zéro absolu, moins 273 degrés, pour qu'ils fonctionnent, ce qui coûterait plus d'énergie que la déperdition à éviter. Qu'à cela ne tienne, ne pourrait-on pas combiner panneaux solaires et éoliennes construites en pleine mer, là où le vent souffle presque en continu? Tout à fait, et les projets de ce type se multiplient. L'un des plus puissants parcs éoliens offshore au monde se situe en mer d'Irlande, au large de Lancaster. 189 éoliennes de presque 200 mètres de hauteur fournissent une énergie d'un térawattheure d'électricité par an. Je traduis 1 térawattheure par an, soit l'énergie fournie par 5,5 millions de cyclistes au travail pendant un an, à la Grande-Bretagne. Le problème, c'est que ce projet, malgré son gigantisme, ne représente que 0,2% de la consommation électrique du pays et 0,05% de ce dont la Grande-Bretagne a besoin pour décarboner, ne plus émettre de CO2, sa consommation d'énergie. Autrement dit, il faudrait 1800 parcs éoliens de ce genre pour que toute l'énergie de la Grande-Bretagne devienne électrique et soit produite sans émettre de GES. Pour gaz à effet de serre, toujours. Cela représente 340 000 éoliennes. Pour donner un autre angle de comparaison, la centrale thermique au charbon de Cordemais, située entre Nantes et Saint-Nazaire, construite en 1968, fournit trois fois plus d'électricité que les 189 éoliennes que nous venons d'évoquer. De plus, cette centrale, beaucoup plus simple à construire, possède un autre avantage. Elle produit de l'électricité sur demande. En effet, et nous arrivons sur le dernier pan contrariant du défi technique que représente la transition écologique, les énergies solaires et éoliennes sont intermittentes. Le soleil et le vent ne brillent ni ne soufflent pas partout, tout le temps et avec la même intensité. Or, notre demande énergétique est plus importante à certains moments de l'année et de la journée. Notamment les soirs d'hiver, quand les batteries de tous nos appareils, et bientôt celles de nos voitures, se rechargent, que nous mettons le chauffage et que nous allumons la télévision pour regarder Netflix. Il nous faut donc installer beaucoup plus d'énergie renouvelable que nécessaire, afin d'être certain que, même en cas de vent faible et de soleil voilé, l'énergie électrique produite pendant la journée suffise à nourrir la demande de la soirée. Il faut également être capable de stocker l'énergie pendant la journée afin de la redistribuer le soir. Le problème, c'est que l'énergie électrique se stocke très mal. Une batterie ultra-moderne d'1 kg, comparable à celles qui sont dans nos smartphones, stocke 20 fois moins d'énergie qu'un litre de pétrole. Et même si les moteurs électriques ont un rendement 3 fois meilleur que celui des moteurs thermiques, la méthode électrique reste 6,5 fois moins efficace que la méthode kérosène. Voilà pourquoi les avions électriques n'ont pas encore vu le jour. Pour pouvoir décoller et voler sur de longues distances, l'avion doit être puissant, grosse batterie, mais léger, petite batterie. Paradoxe douloureux. Croissance égale production d'énergie supplémentaire, les joies de l'effet rebond. Nous avons vu que la croissance du PIB se résume avant tout à des gains de productivité par personne. Or, qui dit travailleur plus productif, quel que soit son secteur d'activité, dit outil de production plus performant, plus rapide, plus autonome, plus puissant. Donc outil qui consomme plus d'énergie. Ainsi, la croissance économique est dépendante de l'augmentation de l'approvisionnement énergétique. Mais attendez un instant. Nos machines ne sont-elles pas plus puissantes et plus efficaces en même temps? Les moteurs de voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces pour transformer l'énergie du pétrole en mouvement que les moteurs d'il y a un siècle. Les batteries de nos téléphones sont plus petites et plus légères tout en stockant plus d'énergie. Nous ne nous contentons pas de fabriquer des machines plus rapides et plus puissantes. Nous fabriquons aussi des machines plus rentables énergétiquement, c'est-à-dire qui, pour un service équivalent, demande une quantité d'énergie moindre. N'est-ce pas dans cette efficacité énergétique croissante que réside le salut de l'humanité? Et oui, mais comme vous l'avez remarqué, le PIB croît en même temps que la consommation d'énergie. Cela signifie-t-il que nos machines ne gagnent pas en efficacité? Ce serait tout de même très étonnant. Prenons un exemple. Quelle était la consommation de l'iconique 2 chevaux de Citroën de 1950? 6 litres d'essence aux 100 km parcourus. Quelle est la consommation d'une Citroën C1 actuelle? 5,5 litres aux 100 km parcourus. Nos ingénieurs n'auraient amélioré l'efficacité des moteurs que de 10% en 70 ans? Bien sûr que non. La 2 chevaux pesait 500 kg quand une Citroën C1 en pèse 850, soit 70% plus lourd. Et puis, il faut de l'énergie pour la climatisation et l'ordinateur de bord, sans compter la puissance du moteur qui permet à une C1 de rouler jusqu'à 160 km/h quand les premières 2 chevaux ne pouvaient atteindre que 65 km/h. Dernier facteur, il y avait 2 millions d'automobiles en France en 1950, 0,05 par personne, contre 40 millions aujourd'hui. 0,6 par personne. Tous ces facteurs forment ce que l'on nomme l'effet rebond. Les gains d'efficacité énergétique sont largement surpassés par l'augmentation de la puissance, du confort et de la démocratisation du produit. Autrement dit, les gains d'efficacité n'ont que rarement permis la réduction de la consommation d'énergie et presque toujours entraîné l'augmentation du nombre de machines et de leur intensité d'utilisation. Retour à la case départ. Plus de croissance signifie plus d'énergie pour nourrir des machines plus nombreuses et plus puissantes. Pour maintenir la croissance économique, il faut maintenir la croissance de l'apport énergétique. Toute la question est donc de savoir si la quantité actuelle d'énergie disponible par personne peut être atteinte, voire continuer d'augmenter, dans un monde sans énergie fossile. Les énergies renouvelables seront-elles capables de faire aussi bien que les fossiles dans ce domaine? Si ce n'est pas le cas, alors la crise économique, baisse du PIB, est inévitable.